nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Passer une demi-heure ensemble pour.
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Françoise Thibault.
Poivrée, sucrée, salée, odorante, enivrante, telle est la route des épices. Moins connue que celle de la soie, mais tout aussi précieuse, peut-être encore plus. Indispensable. Et maritime, sans doute la raison pour laquelle elle est moins connue que la route de la soie. Premier épisode. Depuis qu'il existe, l'homme a toujours souhaité améliorer son ordinaire, sa nourriture. Nous sommes une espèce qui transforme et fait cuire sa nourriture, ce qui est rarissime. Il a eu l'ingéniosité de recourir à des plantes, des feuilles, des graines, des fleurs, des arbres, des mousses, qui parfois se révélèrent traîtres, mais dont il fit très souvent l'agrément de ses repas. Il s'agissait soit de rehausser, de rendre agréable ce qui était fade ou insipide, soit d'assagir ou d'affadir ce qui était trop violent, soit surtout de dissimuler le mauvais goût de nourriture souvent mal ou trop longtemps conservée, notamment à la fin de l'hiver. Viande faisandée ou séchée, poissons en baril, grains ou farines abîmées, fruits et légumes douteux. L'Europe du Nord n'est pas très riche en variétés de goûts. Ce qui donne du goût, en effet, très souvent, est dû au soleil, l'abondance de l'ensoleillement. Dans leur inlassable exploration du monde, les Européens s'appliquèrent donc à rechercher des senteurs, car le nez participe beaucoup au goût, des saveurs nouvelles, route des saveurs, route des arômes, route des épices, tout un roman. Plus tropical que celui de la soie, davantage maritime et moins connu. Les Phéniciens, grands navigateurs et commerçants, établirent des comptoirs dans toute la Méditerranée et au-delà pour échanger les matières brutes contre des produits de luxe, allant jusqu'aux îles Canaries, en Afrique de l'Ouest, en Cornouailles. Alexandre le Grand, dont le maître fut Aristote, très féru de zoologie et de botanique, fit faire, lors de ses campagnes militaires, des inventaires de la flore, de la faune et des minéraux, rencontré en Afghanistan, sur les contreforts de l'Himalaya, au Pendjab et le long de l'Indus. On considère Théophraste, 372-288 avant Jésus-Christ, élève d'Aristote, comme le père de la botanique, opérant un classement de plus de 400 plantes, herbes et arbrisseaux, qui sera repris jusqu'à Joseph Piton de Tournefort au début du XVIIIe siècle, étudiant aussi leur toxicité. Plus tard, le médecin Dioscoride, dans sa Materia Medica, 40 après Jésus-Christ, l'écrivain Pline l'Ancien, mort dans l'éruption du Vésuve, décrit les usages possibles de nombreuses plantes, description que l'on trouve d'ailleurs dans de nombreux textes arabes, notamment les manuscrits de Abu Salim al-Malati datant du XIIe siècle. Les Romains aimaient les mets très relevés et captèrent à leur profit, après la chute définitive de Carthage, le commerce et les connaissances des Phéniciens. Au cours de la longue agonie de l'Empire romain, les Perses, puis les Arabes, reprirent cet héritage, acheminant depuis Ceylan, le sud de l'Inde, la péninsule malaise, depuis Java, Sumatra, les archipels des Moluques et les célèbres, des senteurs et des saveurs convoitées. Mais toujours en quantité insuffisante, ce qui les rendait de valeur inestimable. Les principautés italiennes, Venise, Gênes, s'octroyèrent bientôt un quasi-monopole de l'entrée de ces précieuses denrées en Europe, accumulant ainsi de considérables profits. De leur côté, les Ottomans, maîtres de la Méditerranée orientale, imposèrent de lourds droits de douane aux Occidentaux. Parmi bien d'autres, la famille Polo, le père, l'oncle et Marco, allant jusqu'en Chine, les religieux de différents ordres monastiques ramenèrent en Europe à la fois de précieuses connaissances et le goût de saveurs nouvelles. Ces merveilles orientales ne furent pas acquises sans de lourdes contreparties. Ainsi, la peste noire de 1346 entra par les bateaux stationnés en mer Noire, tuant sans doute 25 millions d'Européens. Pendant cette épidémie, la noix de muscade fut considérée, notamment en Angleterre, comme un remède, et son cours fut plus élevé que celui de l'or pendant une vingtaine d'années. Le prince Henri du Portugal, surnommé Henri le Navigateur, développa la connaissance des plantes issues d'Afrique et de l'océan Indien et fit de son frère, le roi Pedro, le roi du poivre, monopolisant ainsi l'entrée des précieux grains en Europe avec les profits que l'on peut imaginer. De son côté, en Chine, la dynastie Ming commandita les expéditions maritimes de l'amiral Chen Yi, lequel, avec ses 60 jonques, alla jusqu'à Zanzibar, faisant la liaison avec les Arabes, créant les routes maritimes des épices, des teintures, des parfums, de l'encens, de l'opium, des perles, des jades, de l'Asie du Sud-Est. Sortant de la torpeur dans laquelle la chute romaine et la chrétienté les avaient enlisés, les Européens entreprirent leur exploration du monde au XVe siècle, financés par les négociants et les marchands des grandes villes à la recherche de comptoirs d'échange. Ce qui manquait à l'Europe, c'était la quantité de biens et les liquidités accaparées par les privilégiés. Les nouvelles voies tracées d'abord par les Portugais, les Espagnols, les pilotes vénitiens ou génois devaient apporter cette indispensable ouverture. Christophe Colomb chercha la Chine par l'ouest. Vasco de Gama atteignait l'Inde en 1499 après 630 jours de voyage. La vente des épices, en particulier les clous de girofle et les teintures, rapportèrent 60 fois le coût total de l'expédition de Vasco de Gama. La route des épices était définitivement ouverte.